autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation. Pour nous remettre en question, nous et notre rapport aux autres animaux sur Terre, avec qui nous partageons bien plus que nous le pensons, pour le meilleur, comme pour le pire, en l'occurrence l'échange permanent et perpétuel de microbes et autres virus. Impossible d'y échapper en ces temps de pandémie, et franchement absurde de croire encore que nous sommes les plus forts, capables d'éradiquer tous les forcément méchants microbes ou d'échapper aux maladies transmissibles de l'animal à l'homme et vice-versa. Et s'il nous fallait changer radicalement de point de vue et même de voix, comme le répète inlassablement Edgar Morin, le grand penseur de la complexité, pour réaliser entre autres que l'émergence de cette pandémie et son succès est aussi de notre responsabilité, liée à l'accélération de notre mondialisation, à l'emballement de notre économie, à la destruction systématique des écosystèmes et de la biodiversité. Et si, à cause, ou qui sait, grâce à un virus, nous n'avions d'autre choix que de faire autrement pour réapprendre à vivre ensemble et non plus au-dessus de tous les autres vivants. Ce qui en soi est un programme plutôt réjouissant, comme nous le rappelle notre invité, le vétérinaire et épidémiologiste François Moutou, spécialiste des zoonoses, dans un ouvrage au titre volontairement provocateur, adopteunvirus.com. Autour de la question, pourquoi et comment adopter un virus avant qu'il ne nous adopte ? Bienvenue.
Probablement, les virus, ce sont les entités biologiques les plus fréquentes sur Terre. Si on prend 1 millilitre d'eau de mer, on sait qu'il peut y avoir jusqu'à 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million à 100 millions de particules virales dans 1 millilitre d'eau. Et donc, si on ramène ça à l'échelle de la planète ou à la taille de l'océan, on arrive à des chiffres monstrueux, 10 puissance 30, c'est-à-dire 1 suivi de 30 zéros. Et donc, c'est la force majeure, c'est ce qui est responsable de la biodiversité, du cycle de vie à partir du plancton jusqu'aux baleines, j'ai envie de dire. Et donc, c'est la force de cette quatrième branche qu'il faut inclure dans l'arbre de la vie qui est à l'origine de la vie sur Terre.
De l'omniprésence des virus, comme nous le rappelle le professeur Olivier Schwartz, qui dirige l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur, histoire pour commencer de tordre le cou au ridicule et vain espoir de se débarrasser totalement des virus. Bonjour François Moutou.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, autour donc de votre dernier ouvrage, au titre un peu provocateur, adopteunvirus.com, aux éditions de Lachaud et Niestlé. Mais pour ceux qui connaissent l'empêcheur de pensée en rond que vous êtes, docteur vétérinaire, épidémiologiste, spécialiste des mammifères et de l'étude des zoonoses et des maladies communes ou transmissibles aux hommes par les autres animaux, on se doute qu'il s'agit bien de nous réveiller un peu. Car cela fait de nombreuses années déjà, je me rappelle de la vengeance, de la civette masquée hein, de vos ouvrages, au moment du SRAS notamment, que vous nous alertez, François Moutou, sur ces maladies, ces virus qui se transmettent des animaux à l'homme. Vous le dites d'ailleurs, dès le début de cet ouvrage, nous avons beaucoup en commun avec les autres animaux, et en particulier ce que nous avons en commun, ce que nous échangeons, bah, ce sont nos microbes et nos virus.
Bien sûr. En fait, alors, est-ce qu'on est vraiment un autre animal? Est-ce qu'on est un animal différent des autres? Est-ce que l'humain est un animal? On peut avoir des points de vue philosophiques ou biologiques, mais biologiquement parlant, nous sommes un mammifère. Donc, une espèce parmi un groupe zoologique, parmi le monde vivant. Et c'est vrai que, en fait, les mammifères que nous connaissons, ceux qui sont le plus proches de nous, nous paraissent une belle image du monde vivant. Mais la plus grande diversité, c'est ce qui vient d'être dit, ce ne sont pas ceux qu'on voit, mais ce sont les tout petits qu'on ne voit pas, les bactéries, les virus, qui étaient là bien avant nous. L'espèce humaine, on imagine qu'elle a 300 000 ans. Mais les virus et les bactéries, leur origine, ce sont des milliards d'années. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Et ce sont des êtres vivants. Alors, on peut discuter longtemps sur le mot vivant associé à virus. N'empêche que quand ils sont dans notre organisme, ils savent parfaitement comment faire pour se reproduire. Et leur reproduction à eux, et les bactéries, c'est presque pareil. Ça se compte en heures ou en minutes.
Ça va
donc,
très, très
une
vite,
génération de bactéries et de virus, ça se passe vraiment à toute vitesse. Et donc, ceux qui s'adaptent le plus rapidement à toutes les évolutions de l'environnement, ce ne sont pas nous les mammifères, il nous faut des dizaines d'années pour arriver à évoluer un peu, mais ce sont ces petits êtres-là qui sont partout depuis le début Et c'est sans doute parmi eux que se trouvent les plus anciennes formes de vie encore présentes sur Terre. Et c'est là que sera sans doute les meilleures réponses à toutes les modifications que nous apportons à l'environnement. Mais on ne se rend pas compte que nous-mêmes, nous nous mettons en difficulté, alors que parfois, nous leur facilitons le travail à ces tout petits êtres vivants-là.
On leur facilite le travail. On va voir comment. Vous avez travaillé sur de nombreuses zoonoses et autres pandémies. Est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas été si surpris que ça, ou en tout cas, vous n'avez pas eu la même surprise que nous face à cette pandémie du Covid-19,
On est tous surpris, parce que bien sûr que c'est quelque chose que... On pensait possible, on espérait qu'elle n'arrive pas vraiment, cette pandémie.
Quand même que beaucoup de chercheurs comme vous, et notamment vous, mais dans ce studio, vous disiez, la question n'est pas de savoir si ça arrivera, mais oui. Au fond, quand et où, hein.
Et en fait, on avait quand même déjà depuis un certain temps des indicateurs qui laissaient penser que les probabilités que le phénomène arrive et ensuite que le phénomène prenne de l'ampleur, parce qu'on peut, distinguer l'étincelle de l'incendie. Mmh. L'étincelle, il y en a toujours eu. La nouveauté, c'est que le rythme d'apparition des étincelles va plutôt en augmentant. Mais si, à côté de l'étincelle, vous avez un petit fagot de bois, un gros fagot de bois ou toute une forêt extrêmement inflammable, évidemment, les conséquences ne seront pas les mêmes. Or, on n'a pas vraiment agi, on n'a pas beaucoup fait de prévention sur la surveillance des étincelles et on a été complètement débordé par rapport aux outils nécessaires pour empêcher l'incendie.
L'incendie, en l'occurrence, c'est donc cette pandémie de coronavirus. On emploie le terme de zoonose. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, au niveau de l'origine de cette maladie. Vous n'aimez pas tant que ça, ce terme de zoonose, François Moutou ?
C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser en fonction de la définition officielle qui existe, qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui dit qu'une zoonose est une maladie dont l'agent, qui peut être un parasite, une bactérie, un virus ou un champignon, circule régulièrement entre l'espèce humaine et certaines espèces animales et réciproquement, et dans l'autre sens. Donc l'agent de la maladie circule. Dans le cas de la Covid, le virus qui s'appelle SARS-CoV-2, n'est pas connu ailleurs que dans l'espèce humaine. On ne connaît pas de virus SARS-CoV-2 ailleurs que chez Homo sapiens, chez nous. Le virus le plus proche connu se trouve chez une petite chauve-souris de Chine, qui est un petit rhinolophe. C'est une petite chauve-souris avec un drôle de nez qu'on appelle fer à cheval. Ça ressemble un peu à un fer à cheval en tout petit. Et c'est là qu'on a le virus le plus proche. Et si on fait la comparaison du virus de la Covid chez les humains et ce virus de chauve-souris, on peut dire soit l'un descend de l'autre, sans doute le virus humain descend du virus de la chauve-souris, ou bien les deux ont un ancêtre commun. Mais ce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui, un an et demi après le début de l'histoire, c'est comment ce virus, si c'est bien lui, est passé de la chauve-souris aux humains. Comment s'est-il adapté pour s'humaniser au point de devenir unique et propre à l'espèce humaine?
Et parasite vraiment de l'espèce humaine.
Absolument. Et est-ce qu'il a eu besoin, pour faire cette adaptation, de passer par un autre intermédiaire qui aurait permis de faire une transition entre la chauve-souris et l'humain? Alors tout à l'heure, on a parlé de la civette. Ça, c'était le premier SRAS, le premier coronavirus de 2002-2003. Et la petite civette palmiste masquée était l'animal qu'aujourd'hui, on pense avoir été l'hôte intermédiaire entre à nouveau un virus de chauve-souris et le virus responsable de l'épidémie chez les humains. Mais là aussi, en 2003 et 2002, le virus chez les humains n'était pas le même que le virus des chauves-souris. Et donc, dans le cas de la Covid, comme en 2002-2003, le virus n'est pas un agent zoonotique, parce qu'on ne le connaît que chez les humains. Mais on est d'accord pour dire que c'est un virus d'origine animale. Certainement, c'est une espèce animale, une chauve-souris probablement, qui a été à l'origine de ce virus qui s'est adapté à l'espèce humaine. Mais aujourd'hui, 100% de la Covid s'explique par des relations intra-humaines.
Voilà, en tout cas, comment vous répondez à certaines questions de nos auditeurs, notamment à celle d'un auditeur à Goma que l'on salue en RDC, autour de la question « Pourquoi adopter un virus ?» Alors, sont-ils vraiment nos alliés? Vous êtes spécialiste des mammifères, donc on sait que, comment dire, nous avons une dette hein, vis-à-vis de tous ces virus, puisque nous, les mammifères, tous les mammifères, et en tout cas, si on peut faire des bébés, si on peut avoir du placenta, c'est grâce à un virus. Donc, de ce côté-là, ce sont nos alliés, mais le sont-ils vraiment nos alliés? Tout de suite, nouvelle question pour vous, François Moutou, soulevée par la professeure de microbiologie Pascale Cossard de l'Institut Pasteur, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Elle était récemment notre invitée pour son ouvrage sur le monde invisible du vivant, justement, illustré par l'artiste Fabrice Hibert. On écoute la question qui taraude de la professeure Pascale Cossard.
Une des questions que je me pose régulièrement, c'est, on me dit, les virus étaient certainement là depuis très très longtemps, ils ont participé à l'équilibre de tout l'environnement au fur et à mesure que la Terre s'est peuplée, au fur et à mesure que la Terre a été habitée, mais je me demande si vraiment ils jouent un rôle positif. C'est ça qui m'interpelle, parce que finalement, on sait que les virus dans les chauves-souris ne sont pas très pathogènes, parce que les chauves-souris ont un système immunitaire tout à fait particulier et qu'une longue coévolution a fait que la chauve-souris s'est habituée au virus, le virus s'est habitué à la chauve-souris. Mais quand même, il y a quelque chose de problématique là. Est-ce que les virus vraiment peuvent être considérés comme des organismes qui, ou en tout cas des agents qui sont bénéfiques?
Votre réponse, François?
En fait, ma réponse, elle serait complètement liée au point de vue qu'on va prendre. En fait, l'histoire des virus, elle commence par les découvertes des agents de maladie ou bien des plantes que nous cultivons. Je pense à la mosaïque du tabac, c'était le nom du virus qui abîmait les plants de tabac que les planteurs de tabac voulaient récolter. Les virus qui rendaient malades nos animaux, je pense à la fièvre aphteuse, qui est un des virus qui était le plus étudié, car les impacts économiques étaient très lourds en élevage, en Occident et ailleurs, jusqu'au début du XXe siècle. Et puis, évidemment, les virus qui rendent les humains malades. Mais à partir du moment où on a compris ce que c'était que les virus, qu'on a commencé à en chercher. Et les outils maintenant pour chercher des virus sont extrêmement efficients et on a des grandes informations qui viennent de l'environnement dans tous les domaines, terrestres, aquatiques, etc. On se rend compte qu'il y a des millions de virus sur Terre qui peuvent être en lien avec des bactéries, on appelle le bactériophage, avec des quantités de plantes, avec des champignons, avec des mammifères, des oiseaux, et évidemment avec l'espèce humaine. Et donc, dans certains cas, ces virus peuvent rendre malade une espèce hôte particulière parce qu'ils sont vraiment très en relation avec elle. Par contre, les virus de bactéries, c'est plutôt nos alliés, puisqu'ils peuvent limiter la prolifération de bactéries qui pourraient elles-mêmes être pathogènes pour les humains. Il y a tout un pan de la recherche sur les bactériophages qui pourraient être une très très bonne alternative aux antibiotiques, sans le risque des antibiorésistantes qui vont poser problème et qui posent déjà problème en santé publique.
Donc là, les virus seraient vraiment nos alliés pour lutter contre certaines bactéries. Ils mangent ces bactéries-là, un bactériophage. Oui.
Et puis, il y a aussi une découverte assez récente au niveau de la génétique. C'est que quand on a commencé à séquencer notre ADN, à nous humains, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être 5-6% de l'ADN de chacun d'entre nous qu'on ne peut pas interpréter autrement qu'en disant ce sont des virus qui se sont intégrés à notre ADN. Et qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce que ce sont des petits parasites bien au chaud dans nos cellules qu'on transporte, qui ne sont pas très gênants, mais qui sont là un petit peu cachés pour pas se faire repérer? Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Certains d'entre eux, vous les avez cités, ce sont des rétrovirus qui se sont intégrés à l'ADN de nos cellules, qu'on appelle des endovirus. Et sans eux, la gestation des mammifères, qui permet aux mamans et aux femelles des mammifères de faire des bébés, ne pourrait pas avoir lieu.
Donc si nous sommes là, hein, nous mammifères et nous les humains, c'est grâce aux virus.
À certains virus. Tout à fait.
Okay.
Et donc, alors, le point de vue des mammifères, c'est qu'on avait besoin de ces virus pour être mammifères. Et sans ces virus-là, peut-être que nous n'aurions même pas du tout été présents, non seulement nous, humains, mais tout simplement le groupe, la classe des mammifères. Donc, le point de vue est totalement différent selon qu'on sera un plant de tabac, par exemple, un éléphant, une baleine, une souris ou une bactérie de quelque chose. Voilà.
Vous avez évidemment le sourire, un air malicieux quand vous me dites ça, mais en même temps, c'est extrêmement important ce que vous dites, que tout dépend du point de vue d'où on se place. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'on ne se place plus aujourd'hui que du point de vue humain, et pas n'importe lesquels humains, en général du point de vue des humains les plus riches et occidentaux. Vous parliez tout à l'heure d'étincelles et d'incendies. On est sur une planète mondialisée dans laquelle on ne se passe plus que du point de vue humain et tout le reste doit nous obéir en quelque sorte. Hein. Et c'est quand même ça le gros souci aujourd'hui. Et donc c'est peut-être important de changer ce point de vue-là parce que de toute façon, nous ne sommes pas si importants que ça, de fait.
Ah, mais c'est sûr que la Terre vivrait très bien sans nous. Et c'est même dommage d'imaginer que nous sommes la seule planète sur laquelle la vie est connue de façon certaine, de voir dans quel état on la met en ce moment et d'imaginer qu'on veut aller sur d'autres planètes qui ne sont pas viables pour fuir la planète qu'on aura abîmée à ce point-là. C'est complètement irrationnel. Il y a des choses tellement plus importantes à faire. Et tout à l'heure, quand on parlait du point de vue, bien sûr, et on a un peu trop tendance, et dans nos pays, c'est évident, à ne même plus penser collectivement. Mais quand on a vu toutes les discussions autour de comment faire face à cette épidémie, certains qui ne voulaient pas porter le masque, qui refusaient le vaccin, mais il faut réfléchir dans une maladie qui se transmet comme la Covid, la question n'est pas de dire ce que je pense moi, mais c'est par rapport à mon entourage. Si je mets un masque, c'est peut-être pour me protéger, mais surtout pour protéger les autres. Si je me fais vacciner, c'est surtout pour protéger les autres et de ne pas leur donner un virus que j'aurais récupéré et qui se serait multiplié chez moi. Donc on doit raisonner, surtout pas avec uniquement son propre regard, mais être collectif et penser au bien commun avant de penser à chacun d'entre nous. Il faut associer tout le monde. On ne peut pas réfléchir ça individuellement, ça n'a pas de sens.
Donc associer tout le monde, tous les humains, mais pas seulement, vous le dites bien, associer les autres animaux, les autres vivants, la planète. Vous citez d'ailleurs, François Moutou, c'est la conclusion de votre ouvrage, mais j'ai envie de le citer maintenant pour qu'on comprenne bien votre point de vue et pourquoi adopter d'autres points de vue. Un autre ouvrage que vous avez lu quand vous terminiez celui-ci, de l'économiste Éloi Laurent, au titre qui aurait aussi pu être votre sous-titre, « Et si la santé guidait le monde, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance. » Je propose d'écouter Éloi Laurent, membre des économistes atterrés, chercheur et enseignant à Sciences Po et à Stanford. C'était sur France Info le 12 mai dernier. Éloi Laurent, et ça va faire écho à votre réflexion, François Moutou, était interrogé sur le choix impossible à faire en période pandémique entre santé et économie mondialisée.
Si on a fait un choix de l'un contre l'autre, c'est en choisissant l'économie contre la santé. C'est parce qu'on a choisi la croissance et l'économie, c'est ça ma thèse, c'est qu'on a suivi un indicateur qui est un indicateur du XXe siècle et que du coup, ça a conduit à détruire ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire nos liens sociaux. Ce n'est pas la croissance économique qui nous manque le plus. Enfin, je ne sais pas si elle vous manque, mais moi, ce n'est pas ce qui me manque le plus. Ce qui me manque le plus, c'est mes liens sociaux. C'est ça qui fait que je suis humain, c'est ça qui fait qu'on est humain. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Cette année 2020, parce qu'on a détruit l'environnement, parce que le Covid-19 vient d'une zoonose, de la destruction des écosystèmes et de la biodiversité, on a détruit notre habitat, on a fini par détruire notre propre humanité. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. Il n'y a pas plus d'arbitrage entre santé et économie qu'il n'y a d'arbitrage entre économie et environnement.
Éloi Laurent, au-delà de l'épidémie, est-ce que la croissance, tout de même, n'est pas la clé de la santé, précisément ?
Non, c'est absolument pas la clé de la santé, et vous le voyez très bien.
Y compris pour financer des politiques de santé, des politiques sociales.
Eh bien non, vous le voyez très bien dans un pays comme les États-Unis, qui sont le pays qui a le plus engendré de croissance économique de toute l'histoire, peut-être avec la Chine. Et vous voyez aux États-Unis, alors même que la croissance augmente fortement entre 2014 et 2017, une espérance de vie qui recule pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc vous n'avez absolument pas cette idée que la croissance économique conduit nécessairement à une meilleure santé. Ce qui conduit à une meilleure santé, ce sont de meilleures politiques de santé. Et un des éléments essentiels des bonnes politiques de santé au XXIe siècle, c'est de prendre soin des écosystèmes.
Ce n'est pas vous qui direz le contraire, François Moutou. Vous aussi, finalement, vous voulez un peu renverser, c'est pour ça que ça fait écho à sa pensée, ce discours qui consiste à dire « Oh, la pandémie a mis à mal notre économie, quand est-ce qu'on reprend la croissance ?» Vous vous dites qu'il faut peut-être inverser la proposition et se dire finalement ce sont deux siècles de notre économie mondialisée, de croissance économique non durable, je vous cite ou presque, qui ont engendré cette pandémie.
Oui, et moi je me rappelle aussi d'un économiste du XXe siècle, René Passet, qui avait écrit sur l'économique et le vivant. C'est un ouvrage dont on parle plus beaucoup, mais j'avais trouvé passionnant à l'époque, et je pense que Éloi Laurent reprend cette même façon de voir l'économie. On entend certains dire, mais c'est parce qu'on n'a pas assez maîtrisé l'environnement que on a cette épidémie. Si on avait tout assez tout bétonné, on n'aurait jamais été malade. Mais je pense que ça aurait été pire. Et il y a vraiment une incompréhension. Mais c'est vrai que notre éducation, dans nos lycées, dans les collèges, même, enfin, quel que soit l'âge, à part ceux qui font un peu de biologie à la faculté, mais jusque-là, on n'apprend pas l'écologie. On n'apprend pas la notion de réseau. On apprend les espèces séparées les unes des autres comme des petites bulles. Alors, quelquefois, on mange l'une ou on se fait manger par l'autre. Mais la vie, ce ne sont que des réseaux, que des échanges. Et le matériel circule entre les individus et entre les espèces depuis le début de la vie. Et imaginer qu'on a cloisonné et qu'on peut séparer, c'est un non-sens. En plus, nos cultures, notre façon d'élever des animaux pour les consommer, ça consiste à faire des élevages d'une seule espèce, d'un seul type de race, tous du même âge, dans des conditions complètement standardisées. On voit la même chose pour les plantes. On a des hectares d'une variété de maïs standard, des clones et des clones et des clones. Et si vous mettez là-dedans un microbe qui se trouve parfaitement en phase avec la plante ou l'animal cultivé, c'est une épidémie et une extinction de la population élevée. La vie, c'est au contraire le mélange, la diversité dans lequel les microbes vont trouver de temps en temps un qui leur convient, mais ils vont se perdre. Ils ne pourront pas allumer l'incendie et faire disparaître la population, les populations. Donc c'est vraiment la leçon de la vie, c'est plus on a de diversité, mais c'est vrai pour la culture humaine aussi, c'est vrai pour les langues, c'est vrai pour notre façon d'être, de vivre. Imaginez qu'on sera tous pareils un jour, c'est le non-sens absolu par rapport à la vie. Et c'est dans la diversité qu'on a le plus de chances de trouver des réponses à toutes nos questions. Or, notre économie, vers cette croissance, comment est-ce qu'on peut imaginer croître dans un monde fini où non seulement on sait qu'il y a des limites, mais on commence à les voir, les limites. On a commencé à dater la fin du pétrole, la fin de différentes substances rares, les métaux rares, de certaines ressources. L'eau, quand est-ce qu'il y aura plus d'eau potable pour l'humanité? Et en plus, notre croissance, la conséquence la plus immédiate et qu'on n'a jamais pu empêcher et qu'on vit tous les jours, c'est l'augmentation des inégalités entre les extrêmes. On n'a jamais réussi à maîtriser cet accroissement des inégalités et la croissance continue, l'innovation continue à créer des inégalités. Et ça, c'est quelque chose que ceux qui sont devant ne voient pas parce qu'ils ne se retournent jamais, mais c'est inimaginable d'imaginer cette dispersion qu'il y a et les conséquences que ça apporte et les difficultés qui sont de plus en plus grandes et qu'il faudra qu'un jour nos politiques soient capables d'affronter.
Il faut qu'on vous entende. Il est temps en tout cas que nous tous on se pose les bonnes questions, j'ai envie de dire, et surtout dans le bon sens, hein, qu'on n'inverse pas les propositions. Je sais que vous faites confiance aux jeunes qui manifestent un peu partout sur la planète, qui manifestent notamment pour le climat, qui font écho à d'autres engagements passés. Vous avez choisi, et ce n'est pas par hasard, d'écouter Bob Dylan sur RFI. François Moutou, c'est pour vous. A hard rain is gonna fall.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of 12 dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard rain gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. Saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rain
gonna fall.
Bob Dylan sur RFI, pourquoi ce très joli choix musical, François Montou?
En fait, c'est une chanson qui est donc assez ancienne dans sa carrière. Et clairement, il fait référence à l'énergie atomique. Mais il n'a jamais vraiment voulu le dire complètement de façon transparente. Et en fait, il faut imaginer qu'on a commencé malheureusement par les bombes avant de commencer par l'énergie civile pour alimenter les pays, et certains pays en tout cas. Et on sait que cette énergie, elle a des avantages, elle a aussi des inconvénients. Et malheureusement, dans les années, fin des années 40, on a vu ce que ça a pu donner. On est plusieurs pays à avoir fait des essais dans l'atmosphère dont on a toujours les conséquences dans l'environnement.
Chanson donc qui était prospective et engagée, comme vous l'êtes d'ailleurs, cher François Moutou, épidémiologiste, vétérinaire et auteur donc aux éditions de La Chaux et Niesley de cet ouvrage adopteunvirus.com qui nous a inspiré le titre de cette émission autour de la question pourquoi adopter un virus. Vous avez aussi publié il y a quelques mois un ouvrage collectif sur les zoonoses aux éditions Quae avec plusieurs de vos collègues chercheurs et chercheuses engagés comme vous pour étudier toutes ces maladies qui nous lient aux autres animaux. Je propose d'ailleurs d'écouter un chercheur qui, alors lui, s'est investi corps et âme sur le sujet. C'est le virologue Alpha Cabinet Keta de l'IRD, chercheur au laboratoire trans VIH et maladies infectieuses rattaché à l'université de Montpellier. Il est revenu en Guinée pour travailler sur le virus Ebola en pleine épidémie en 2015. Il y a fondé, il est aujourd'hui le directeur adjoint de ce centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée. C'est l'un des rares laboratoires à Conakry qui puisse fournir un diagnostic de la maladie à virus Ebola. Notre reporter Charlie Dupiot a pu rencontrer Alpha Cabinet Keta à Conakry, en Guinée, dans ce laboratoire. C'était le mois dernier, juste après une nouvelle résurgence du virus Ebola en février, en Guinée forestière, dans le sud du pays, qui a provoqué la mort d'une infirmière et qui a remis en cause un peu ce qu'on pensait savoir autour de la transmission de ce virus de fièvre hémorragique, comme vous allez le découvrir dans ce reportage donc signé Charlie Dupiot, dans le laboratoire d'infectiologie de Conakry, dirigé par Alpha Cabinet Keta.
Là, cette pièce, c'est ce qu'on appelle la zone pré-PCR. C'est au niveau de cette pièce qu'on reçoit les prélèvements, les inactives. On fait les extractions d'acides nucléiques, c'est-à-dire d'ARN ou d'ADN. Et à côté de cette pièce, vous avez en même temps un petit box qui permet de faire le mix réactionnel qui doit rester propre. Donc ça, c'est une zone non contaminée. Les échantillons sont stockés dans la salle des congélateurs.
Ah, qui est juste sur notre gauche.
Qui est là. Et donc maintenant, pour les prélèvements Ebola, lorsque par exemple il y a eu la résurgence là, actuelle en Guinée forestière en février 2021 là, et donc nous avons reçu les prélèvements ici pour confirmer un premier diagnostic qui avait été fait sur place à Djékédou. Jusqu'à présent, on n'est pas certain sur le cas index, le premier cas identifié.
Et vous, c'est cet échantillon là que vous avez étudié?
Le cas index n'a pas pu être prélevé, c'est un décès probable. On imagine que c'est cette infirmière de 51 ans, ainsi de suite. Mais est-ce qu'avant elle, il y a eu d'autres personnes qui ont développé la maladie, qui en sont décédées sans qu'on s'en rende compte? Ça, on ne le sait pas pour l'instant. L'infirmière est décédée avant d'avoir été diagnostiquée. Maintenant, c'est le premier contact, c'est-à-dire le mari de l'infirmière, c'est cet échantillon que nous avons reçu ici. Et on n'a pas fait que détecter, on a aussi fait du séquençage. On a alors cette fois-ci montré les alignements de lettres, entre guillemets, hein, les séquences qui constituent les portions d'ADN, c'est-à-dire les gènes du virus Ebola, qui permet de mieux comprendre à quel type de virus on a affaire, quelle espèce de virus Ebola on a affaire. On s'est rendu compte que le virus il n'a pas évolué. Il est resté le même pendant ces 5 années passées. Nous avons été confrontés à la même souche virale pendant cette épidémie que l'épidémie de 2013-2016. C'est pour ça qu'on parle de résurgence et non de réémergence.
Parce que c'est la même forme de virus.
C'est la même souche. Le patient survivant rentre dans les hypothèses qui permettent d'expliquer cela. On se disait avant que le virus Ebola, pour qu'il y ait une épidémie en population humaine, il faut qu'il y ait un contact unique entre l'homme et l'animal et que par la suite, par le phénomène de transmission interhumaine, que le virus se propage en population humaine. Sauf qu'aujourd'hui, nous savons qu'il ne faut pas qu'il y ait forcément un contact entre l'homme et l'animal, que l'épidémie peut repartir d'un humain qui fait soit une rechute de sa propre infection ou qui garde le virus dans une zone de privilège humain suffisamment longtemps, qui ne développe aucun symptôme, et le virus se réveille et cette personne est capable de transmettre le virus à un autre individu qui n'a jamais fait la maladie. Et à partir de là, la chaîne de transmission interhumaine se met en route. Donc, on peut considérer l'homme comme un réservoir caché du virus Ebola. Ce que je dis, c'est que là, aujourd'hui, on peut se permettre, avec les données dont nous disposons, de vouloir réécrire l'histoire naturelle du virus Ebola.
L'homme aussi peut être un réservoir caché du virus Ebola, de quoi réécrire depuis Piconacri, comme nous le disait lui-même Alpha Cabinet Keta au micro de Charlie Dupiot, de quoi réécrire l'histoire de ce terrible virus Ebola.
En fait, l'histoire est peut-être en train d'évoluer toute seule. C'est qu'on n'a pas encore besoin de la réécrire. Elle s'écrit et c'est à nous de bien suivre et de bien noter
ce
qui va se passer. Parce que paradoxalement, c'est un virus pour lequel Ebola, on n'est pas sûr du réservoir animal. On évoque les chauves-souris, mais sauf si je me trompe, mais là, en mai 2021, je ne crois pas qu'on ait jamais isolé le virus d'une seule chauve-souris africaine. Même si on pense que c'est par là que ça doit se passer, surtout les espèces frugivores, les grandes chauves-souris, les roussettes. Et jusqu'à présent, on a eu donc une certaine, malheureusement beaucoup trop d'épidémies qui commençaient avec un point souvent dans la forêt, soit avec des chauves-souris, mais plutôt avec des singes que les gens consommaient, les singes étant eux-mêmes contaminés auprès des chauves-souris. Mmh. Et ça a enclenché une épidémie autour de ce village, des voisins, des parents, et jusqu'à ce qu'on ait maîtrisé l'épidémie. L'épidémie de Guinée et des 3-4 pays d'Afrique de l'Ouest qui a été touchée de fin 2013 à 2016 a été extrêmement plus importante en ampleur. Il y a eu 20 000 cas, je crois. C'était un chiffre beaucoup plus important que tout ce qu'on avait connu jusqu'à présent, qui était plus dans le centre de l'Afrique, autour de la République démocratique du Congo, du Congo et du Gabon, avec vraiment beaucoup, beaucoup de cas. Et l'idée, c'est que plus de cas humains sont exposés au virus, plus on donne au virus de possibilités, de probabilités de trouver un équilibre nouveau entre un être humain et lui-même.
Plus qu'il y a d'humains à parasiter, plus le virus peut s'adapter, évoluer et faire sa vie.
Et trouver des conditions un peu différentes, parce qu'on est tous un peu différents.
Bien sûr.
Et donc, il peut trouver un être humain chez lequel il va peut-être ne pas exprimer de clinique. La personne ne saura même pas qu'elle est contaminée. La personne ne sera pas contaminante pendant un certain temps. Et il pourrait éventuellement s'adapter sous une forme qui pourrait lui permettre de rester longtemps chez un humain, très discrètement, et ça pourrait expliquer cette résurgence qui était apparue en début d'année.
Parce que si on va très loin et qu'on se passe là du point de vue du virus, le virus, au fond, il n'a pas intérêt à tuer aussi vite que tue Ebola. Le virus, il a intérêt à... Enfin, il a intérêt,
c'est sûr. Alors, mettre à la place du virus, ce n'est pas facile. Le point de vue du virus, ce n'est pas simple à imaginer. Mais c'est vrai qu'un virus qui tue très vite ses hôtes se suicide en les tuant. S'il n'a pas eu le temps, si le malade n'a pas eu le temps de transmettre le virus à quelqu'un d'autre réceptif. Et donc, l'intérêt du virus, si on prend toujours un peu de...
Les précautions avec les mots, bien sûr.
En mettant des guillemets partout, c'est effectivement d'être facile à transmettre d'un individu à l'autre, mais de ne pas les rendre trop malades pour que chacun puisse le multiplier et le transmettre à la génération suivante. Et donc, on est peut-être en train d'assister à une adaptation en ce moment, donc, de ce virus, de cette espèce de virus Ebola, puisqu'il y a effectivement, comme ça a été dit, plusieurs espèces de virus du genre Ebola, à l'espèce humaine, avec une forme plus discrète, mais qui serait toujours extrêmement désagréable, puisque dans tous les cas, il y a un risque de décès du malade qui est relativement important.
Et en même temps, si on en revient, même sans parler de cette épidémie d'Ebola, mais toutes ces épidémies, au fond, on est en train de créer, enfin, c'est pas sans le faire exprès, mais notre société, notre civilisation mondialisée, où l'on voyage en avion, où l'on veut de la croissance et la croissance, on est de plus en plus nombreux sur Terre, on est en train de créer quoi ? Une sorte de paradis pour les virus ?
Mais écoutez, François Moutou ? Je suis né au milieu du XXe siècle. La population mondiale a triplé depuis que je suis né. Je n'imagine pas que les enfants qui naissent maintenant, on sera 8 milliards en 2024. Donc les enfants qui naissent maintenant, ils seront encore là en 2100. Mmh. Il n'est pas pensable que la population mondiale triple une nouvelle fois dans la fin de ce 21e siècle. Donc il faut trouver une façon de maîtriser et d'équilibrer et de partager. Mais évidemment, dans un monde à 8 milliards, il est plus facile pour un virus de trouver tout ce dont il a besoin chez les humains qu'il n'y a que deux siècles. On pense que le premier milliard a été atteint entre 1800 et 1850. Donc ça fait à peine deux siècles. Imaginez, en deux siècles, la population est passée de 1 à 8 milliards. Donc pour n'importe quel virus qui s'adapte aux humains, c'est beaucoup plus simple de trouver tous les hôtes humains dont il a besoin de toutes sortes aujourd'hui qu'il y a deux siècles.
Et en plus, il peut prendre l'avion avec eux et circuler dans le monde entier.
En 2019, la dernière année normale, alors je ne sais pas si c'était vraiment normal, mais en 2019, on était 7 milliards et demi, un peu plus. Les avions ont transporté 4 milliards de personnes. Alors, certains ont pris l'avion des quantités de fois et tout le monde ne prend pas l'avion, etc. Mais c'est plus de la moitié de la population en nombre de passagers qui ont pris l'avion. Et donc, pour un virus qui se transmet, imaginez, alors je ne sais pas si la ville de Wuhan en Chine a un lien avec ce qui s'est passé, mais vous avez un marché dans lequel on vendait des animaux vivants d'espèces non déterminées et avec à côté un aéroport international. Mmh. Ce n'était pas prévu par l'évolution, ça. Mais dans le cas où vous avez, sur la même ville, l'aéroport international et le marché où on vend on ne sait pas quoi, pour un virus qui passe de l'animal en question, pas identifié, à un humain, c'est gagné, quoi. C'est gagné. Dans les 12 heures qui suivent, il a fait le tour de la planète.
Donc les virus sont contents, nous un peu moins. Nous, en tout cas, il nous faut nous tourner, et là on n'a plus le choix, vers ce concept dont on parle beaucoup aujourd'hui, d'une santé commune, ce concept One Health. Vous avez envie d'aller encore plus loin, mais je propose d'abord, François Moutou, d'écouter à ce sujet l'éclairage de la nouvelle présidente de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, Valérie Verdier, qui porte précisément cette approche One Health, une santé.
Il n'y a plus de frontières entre le monde animal, le monde végétal. La question serait peut-être comment lui perçoit justement toutes ces questions autour de la préservation de la biodiversité qui sont essentielles pour prévenir et mieux anticiper ces pandémies. Quel est son regard? Comment mieux anticiper? Comment mieux prévenir? Est-ce qu'il pense que c'est par des modélisations plus poussées? Est-ce que c'est par une meilleure compréhension au niveau de l'évolution de ces micro-organismes? Enfin, quelles seraient les priorités pour lui dans la recherche, et notamment la recherche au Sud, pour accélérer nos connaissances et pour éviter ces pandémies? Le One Health, il n'est pas toujours bien compris de ceux qui soignent ou qui disent, bon, très bien, ces approches où il faut comprendre les relations entre l'animal, l'humain et l'écosystème. Oui, mais d'accord, mais nous, il nous faut des choses très pratiques et des solutions pour soigner. Donc, il y a quand même encore une fracture, si vous voulez, entre ces mondes des médecins qui soignent et puis de ceux qui essayent de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Il faut qu'on arrive à... C'est tout l'enjeu en ce moment, d'ailleurs, au niveau de nos ministères, de se faire parler des communautés, à la fois les écologues et puis les médecins.
Ça crée un enjeu justement de faire parler, de relier toutes les communautés, les médecins qui soignent la santé humaine, les écologues, les vétérinaires, les épidémiologistes, pour les réunir ensemble et pour penser ensemble la santé, notre santé et celle de tout le vivant sur Terre.
Tout à fait. Donc c'est vrai que les médecins, on leur apprend à soigner les gens malades. Donc, ils vont soigner l'individu. Alors, quand il y a une épidémie, il y a beaucoup d'individus malades, mais on soigne toutes les personnes. Et les épidémiologistes, qui peuvent être médecins de formation ou qui peuvent être vétérinaires de formation, vont approcher les populations, les groupes. Alors, en vétérinaire, on dira le troupeau, on dira le cheptel. Alors, évidemment, en population humaine, on parle de population, on parle pas de... On a des termes différents à chaque fois, pour pas se tromper. Mais le regard n'est plus au niveau de l'individu, mais de l'ensemble, et de faire de la prévision. Et l'idée quand même, c'est que si les animaux vont mieux, sauvages comme domestiques, on peut penser que les humains à côté iront mieux, et que si l'environnement dans lequel les animaux comme les humains et les plantes vivent, il y aura également un bénéfice partagé. Et le One Health, c'est de dire que la santé des uns dépend de celle des autres, mais je pense qu'il faut, et c'est pas toujours évident, accepter de ne pas centrer sur l'humain. On va pas soigner les animaux ou les plantes pour que les humains aillent mieux. On va soigner les animaux, on va soigner les plantes, on va soigner les humains, on va soigner la planète pour que tout le monde aille bien.
Mais ce n'est pas clé, en fait, centré sur le chantier, ce serait ça.
Il faut être d'accord, accepter l'idée de ne pas anthropocentrer. On soigne chacun dans ses compétences et chacun en relation avec les autres. Alors c'est le principe même de la vie. La vie, ce sont des réseaux. Et on ne doit pas avoir des silos, des systèmes verticaux dans lesquels personne ne communique. On fait très bien ce qu'on doit faire, mais on ne voit pas ce qui se passe à droite, on ne voit pas ce qui se passe à gauche, devant nous, derrière. Il faut qu'on travaille ensemble et que chacun, avec les connaissances nouvelles qu'il peut apporter, enrichisse les autres au bénéfice total. Et c'est vraiment toujours la notion du bien commun. Et le bien commun, en fait, que nous partageons tous, c'est la même planète qui s'appelle la Terre. Il n'y en a qu'une.
Il n'y en a qu'une, notre bien commun précisément. Allez, on fait un petit détour autour de la question pourquoi adopter un virus, pour sortir justement définitivement de l'idée qu'on va se débarrasser des virus parce qu'on est tous sur la même planète et que c'est notre bien commun. On écoute Stup Virus sur RFI, morceau qui devrait vous plaire. François Moutou, signé d'un groupe français qui déménage lui aussi, Stup et Flip sur RFI.
C'est une petite boule d'acide entourée de protéines. Bactériologique, truc chimique, stup fantôme. Te rend paraplégique, psychotique. Son posthume, le truc te soigne par tous les pores. Broie ton système. Ce virus est mortel, ouais, pour la vie, n'a pas d'estime. Tu contractes des mélodies, t'as la pied caisse claire, maladie. Tu vas sombrer dans la folie, car ce son tu, c'est affolant.
Stup virus,
truc atroce, ça te laisse en connaissance. Ta liste Spotify infectée par la stup danse.
Attention, stup virus,
enlève-moi ce truc de la cervelle.
Le stup virus, nique ton cerveau de ta carte à puce. Attention, stup virus,
comment je peux m'en débarrasser?
Mec, si la poisse est foutue, t'as les symptômes du stup virus.
Pour éliminer des milliards de personnes.
Stup virus, truc vorace, suite de sang qui te laisse des puces. Te ronge la carapace, le truc te prend l'encéphalus, ça fout la frousse. Et sur YouTube, verrez le pouce. Ça provoque des secousses, y'a le bouton replay qui trépasse. Stup virus, boule d'acide, ravage à la région nord. Toujours pas d'antidote, tu ne fabriques plus d'anticorps. C'est hypnotique, pas ton pote. Couleur verte et boule d'azote. C'est pas le sang qui est plaisante, le plus méchant des parasites.
Attention, Stup virus, enlève-moi
ce truc de la cervelle.
Le Stup virus, nique ton cerveau de ta carte à puce. Attention, Stup virus,
comment je peux m'en débarrasser?
Mec, si la poisse est foutue, t'as les symptômes du stup virus.
Attention, stup virus,
enlève-moi ce truc de la cervelle.
Le stup virus, nique ton cerveau de ta carte à puce. Attention, stup virus,
qui ont éliminé d'un coup des millions de gens.
Attention, stup virus autour de la question pourquoi et comment adopter un virus en votre compagnie, cher François Moutou. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste vétérinaire et auteur, entre autres, aux éditions de La Chouet Nestlé, de adopteunvirus.com ou comment changer de regard sur ce qui nous arrive, sur ce qui nous entoure et sur les liens que nous entretenons pour le pire, mais aussi pour le meilleur, avec tous les animaux, avec l'ensemble du monde vivant dont on ne peut être séparé, jamais seul, pour reprendre le titre de l'ouvrage du professeur Marc André Sellos, du Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste des symbioses entre les champignons et les arbres, qui a une question pour vous, François Moutou, on l'écoute.
C'est une question amicale à François, avec qui on a déjà travaillé et échangé. Et derrière cette très très bonne idée de bouquin, moi, il y a un truc auquel je commence à penser, j'ai pas de réponse, peut-être que François aura une réponse. C'est, on a des enfants qui sont nés dans la pandémie. On a des adolescents qui ont trempé dans la morne solitude du confinement. Comment on va faire pour leur expliquer que les virus ne sont ni bons ni mauvais, mais qu'ils sont? Comment on s'y prend? Parce qu'il y a du traumatisme derrière tout ça. Et tout ce qui peut arriver de mieux, c'est que ce traumatisme nous aide à en faire quelque chose de positif, préventivement, plus de compréhension du monde vivant, mais on fait comment?
Et voilà la grande question. On fait comment, François Moutou, pour intégrer véritablement ce que vous nous dites, ce que les chercheurs comme vous nous disent, que voilà, qu'on est tous sur la même planète et les virus sont bien plus nombreux que nous et là bien avant nous et on s'en débarrassera pas comme ça.
Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on, enfin rigolo, je ne sais pas si c'est le mot, mais on revit à une échelle courte en fait l'histoire de la virologie. Donc les enfants qui viennent de naître, qui ont connu comme premier virus celui de la Covid-19, sont un peu comme les virologues qui, au début du XXe siècle, découvrent le virus de la moisissure du tabac, de la fièvre aphteuse et de la rougeole, par exemple. Avant que on ne découvre beaucoup d'autres virus qui, pour certains, ne nous concernent pas du tout, ou bien au contraire, comme les bactériophages qui mangent les bactéries qui pourraient être une arme pour nous protéger de certains agents microbiens.
Et qui pourraient être la solution face à la bactériorésistance.
Absolument. Et donc, je pense que, mais Marc-André doit connaître aussi la réponse, en fait, je pense qu'il a assez. On doit enrichir, on doit augmenter, on doit renforcer l'enseignement de la biologie dans les collèges, dans les lycées. Il faut qu'on réapprenne l'écologie, il faut qu'on réapprenne cette notion de réseau. Je pense que le mot, je l'aurais dit plusieurs fois, mais il y a les réseaux sociaux d'un côté, mais il y a aussi la vie qui fonctionne en réseau. Et les virus font partie d'un ensemble dans lequel il y a aussi les bactéries, il y a les plantes, il y a les champignons, il y a ce qu'on appelle les animaux, il y a également les mammifères, dont les êtres humains. Et les virus, c'est un petit peu à nous de les comprendre. C'est peut-être pas, je ne sais pas s'ils cherchent à nous comprendre, mais nous, on a l'avantage de pouvoir apprendre, on a l'éducation, on peut enseigner des informations, on peut passer des messages par voie orale, par d'autres voies, mais la langue est aussi une bonne façon de communiquer les uns avec les autres. Et on doit, au-delà de la Covid, qui est peut-être le point d'entrée, montrer que c'est aussi la conséquence peut-être de notre mauvaise compréhension de cette vie qui est tellement extraordinaire, qui est tellement unique, puisqu'on ne la connaît pas en dehors de notre planète Terre, et que si on veut partager encore pour un certain temps, et cette génération qui arrive, elle est cruciale, c'est elle qui va ou pas nous faire changer, les vieux comme moi, et même les intermédiaires, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont plus jeunes que moi, et je suis surpris parfois de les trouver aussi difficiles à convaincre de réfléchir autrement. Et donc, les enfants qui se posent la question et qui ont vécu ça, peut-être que c'est eux qui auront les bonnes questions et qui auront les clés pour nous faire changer et faire en
mais
sorte.
Mais nous faire changer, c'est important. C'est vraiment un changement de paradigme. C'est apprendre à regarder autrement la vie et le vivant, mais pour ce qu'elle est. Et en même temps, ça, c'est aussi magnifique et même réjouissant, enfin, d'avoir tant à apprendre et à découvrir sur ce vivant en réseau dépendant, interdépendant.
Bien sûr. Alors moi, j'ai passé mon mois d'avril à regarder les oiseaux. J'habite pas très loin d'ici, dans les parcs en ville. J'ai vu des quantités d'oiseaux et j'ai eu la chance de partager le mois d'avril avec des petits oiseaux, certains qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée et du Sahara, c'est là-bas qu'ils passent l'hiver, et qui sont venus faire leur nid en pleine ville. Je trouve ça extraordinaire. Les martinets sont dans le ciel quand on pense aux kilomètres qu'ils font, mais simplement s'émerveiller sur des choses toutes simples. Et les virus font partie des choses toutes simples. Ils sont capables de faire des choses extraordinaires, certains de ces virus. Enfin, donc, il y a du positif dans cette histoire et il ne faut pas rater l'occasion de le mettre en avant.
Merci infiniment, François Moutou, d'être venu en direct pour partager tout ça, toutes ces pistes pour vivre ensemble, hein, parce que finalement, c'est ça. Je rappelle le titre de cet ouvrage passionnant qui vient de paraître aux éditions de Lachaud et Niesley. adopteunvirus.com, sous-titré les microbes passent de l'animal à l'homme. À signaler aussi l'ouvrage collectif que vous avez publié récemment, Les zoonoses, ces maladies qui nous lient aux animaux, paru aux éditions Quae. Vous revenez quand vous voulez, François Moutou.
Merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à nous réécouter, à vous abonner à notre podcast sur l'appli RFI Pure Radio et sur toutes les bonnes plateformes. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditeurs et auditrices, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro. Autour de la question, quelle stratégie pour une renaissance scientifique en Afrique? Nous aurons le plaisir de recevoir un réseau. Tiens donc, François Moutou, mais oui, c'est toujours en réseau que ça se passe. Un magnifique réseau de physiciennes et physiciens en engagé donc en réseau, sur et pour le continent, qui aussi vont contribuer, on l'espère, à changer notre monde dans le bon sens. Merci de votre fidélité, de votre interactivité, chers amis auditeurs. Nous lisons avec intérêt tous les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.